de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour nous interroger sur notre attention. Ici et maintenant, vous m'écoutez, amis auditeurs, et je vous en remercie. Mais vous pensez sûrement à autre chose en même temps, et c'est normal. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne, sauf que dans notre monde hyper connecté, les sollicitations qui nous parviennent sont de plus en plus nombreuses. Comment ne pas se laisser distraire par tout et n'importe quoi? Comment rester concentré sur ce qui est le plus important? Pourquoi notre attention nous échappe sans cesse? Et comment retrouver le sens de l'équilibre attentionnel? Voilà ce que nous allons chercher avec notre invité, le neuroscientifique Jean-Philippe Lachaud, qui vient de publier « Le cerveau funambule » autour de la question « Comment être plus attentif ?» Bienvenue. Bonjour Jean-Philippe Lachaud.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes directeur de recherche en neurosciences cognitives au sein de l'unité INSERM Dynamique Cérébrale et Cognition à Lyon. Vos travaux portent sur l'attention. Vous avez déjà publié aux éditions Odile Jacob « Le cerveau attentif » qui a rencontré un grand succès. Votre nouvel essai, sous-titré « Comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences » s'intitule « Le cerveau funambule ». Pourquoi funambule, Jean-Philippe Lachaud?
Alors le cerveau funambule fait référence à ce que j'appelle le sens de l'équilibre attentionnel. C'est un peu pour avancer l'idée que être attentif, c'est d'abord une affaire de doigté, de subtilité, beaucoup plus que de force brute. Parce que souvent, on associe l'attention à la concentration, les sourcils froncés. C'est difficile, c'est un effort. Je crois qu'il faut changer la façon dont on voit l'attention, d'autant plus qu'on est dans un monde extrêmement dynamique, maintenant moderne. L'attention, c'est quelque chose de dynamique. C'est vraiment comme tenir en équilibre sur une poutre ou sur un fil. C'est quelque chose d'assez fin, finalement.
À rechercher sans cesse, à stabiliser sans cesse, à apprivoiser sans cesse.
Exactement. Et comme un funambule sur un fil, finalement, le funambule ne fait pas beaucoup d'efforts physiques. C'est vraiment plus dans le ressenti, il va compenser par petites touches. Donc voilà, le cerveau funambule, comme quelque chose d'assez léger.
Autour de la question, comment être plus attentif? Première piste de réflexion sonore tout de suite, avec le mix forcément funambule de Guillaume Ploquin.
Notre esprit fourmille de pensées sous des formes très diverses. Elle capture notre attention parce que notre système attentionnel les juge importants.
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un?
Vous avez vu ce que j'ai vu?
Absolument, oui.
On a besoin de renfort. Envoyez un signal au mari.
Qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? Oh, pardon, personne n'écoutait, chef.
Concentre-toi en toi. Sois plus attentif.
Alors, qu'appelle-t-on attention en sciences cognitives?
Vous allez voir, c'est un problème simple. Ok, concentrez-vous bien.
Ces décisions d'accorder ou non de l'attention à nos pensées et à nos perceptions sont prises à un rythme effréné. À ce rythme, ces décisions ne peuvent pas être toutes réfléchies, volontaires et conscientes.
Les instituteurs se plaignent régulièrement de la baisse d'attention des élèves d'une classe à une autre.
L'ordinateur allumé, toujours connecté. À 24 ans, voilà comment Maud Seigne révise ses examens.
Dès que j'ai un bip d'un côté ou de l'autre, c'est ça la priorité par rapport à mes cours, alors que ça devrait pas l'être.
Marcher sur une poutre n'est pas une chose aisée. Il faut être à l'affût du moindre déséquilibre pour immédiatement le corriger. Rester concentré demande aussi un bon sens de l'équilibre.
L'attention peut moduler massivement l'activité cérébrale. Elle peut donc faciliter l'apprentissage, mais elle peut aussi orienter l'apprentissage dans la mauvaise direction.
Donc là, on va essayer de se concentrer. Dès qu'on est conscient qu'on a un peu été distrait, on ramène simplement la concentration sur l'objet.
Je voudrais souligner que dans l'espèce humaine, l'orientation de l'attention ne dépend pas seulement d'aspects mécaniques, mais aussi de signaux sociaux.
Voilà ce dont il s'agit. Mon dossier. Dossier, merci. Oh, j'ai oublié de mettre les feuilles de papier dedans.
C'est vraiment un effort digne d'un sportif, parce qu'il ne faut pas lâcher l'attention deux secondes, et c'est assez éprouvant.
Ça vient de fuser dans tous les sens et pourtant vous êtes resté très attentif, Jean-Philippe Lachaud. Vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre?
Oui, je pense que on se rend bien compte à quel point l'attention est en train de devenir omniprésente dans notre société. Il a toujours été, mais c'est un sujet qui est clairement en train de monter. On parlait plus de mémoire, d'émotion quand on pensait au cerveau il y a quelques années. Maintenant, l'attention, c'est vrai que ça commence à occuper toute notre attention.
Qu'est-ce que c'est que l'attention, hein? Les neuroscientifiques comme vous, comme Stanislas Dehaene qu'on a entendu dans le mix, parlent de système attentionnel.
Oui, en fait, c'est même plusieurs systèmes. C'est un système de sélection, d'abord. Alors, On parle d'attention sensorielle, c'est la sélection de certaines sources d'informations par rapport à d'autres, le fait d'écouter une personne plutôt qu'une autre, par exemple dans un bar bondé où il y a du bruit. Ça c'est l'attention auditive, vous avez l'attention visuelle, le fait de regarder, de porter attention à un certain objet plutôt qu'à un autre. Et puis vous avez une attention plus exécutive qui en fait va favoriser, va sélectionner certains processus cognitifs plutôt que d'autres. Donc c'est par exemple aussi pour les pensées, je pense, je vais favoriser une pensée plutôt qu'une autre. En fait, il y a tout un rôle aussi de régulation par l'attention. Très souvent, quand on a la plupart des problèmes de la vie quotidienne sont en fait des problèmes de sélection d'attention mal orientée
entre différentes sources, parce que notre cerveau est sollicité par tout un tas de perceptions, de pensées, d'idées.
Voilà, sollicité de l'extérieur et de l'intérieur. Si à 3h du matin j'ai du mal à m'endormir parce que j'ai une pensée qui m'obsède, c'est aussi un problème d'attention, parce que mon attention va être captivée par cette pensée. Donc quelqu'un qui aurait une maîtrise parfaite de son attention échapperait comme ça à toutes sortes de problèmes qui nous compliquent la vie vraiment au quotidien.
Parce que nous souffrons tous, hein, vous nous rassurez, hein, commençant ce livre, Le cerveau funambule, nous souffrons tous au fond de troubles de l'attention.
Oui, alors il ne s'agit pas de dire que tout le monde est malade, mais c'est vrai qu'on a un peu cette idée, cette image d'Épinal, que il y a les enfants, souvent on parle d'enfants qui ont des troubles de l'attention, et puis les autres dont l'attention serait normale. En fait, on peut tous, sans dire qu'on souffre de problèmes d'attention, on peut tous bénéficier d'une meilleure attention. Par exemple, dans l'exemple que je mentionnais juste avant, le fait d'être obsédé par une pensée ou de décrocher dans une conversation, on sent bien quand quelqu'un en face de nous tout d'un coup ne réagit plus, est un petit peu parti dans le contact est moins bon. Donc c'est pas une pathologie, mais c'est quand même plus agréable d'avoir un vrai couplage, une vraie connexion avec la personne qu'on a en face de soi.
On sent quand la personne en face de toi est distraite. Qu'est-ce que c'est que la distraction justement par rapport à cette attention?
La distraction, ça va être une rupture dans la continuité de l'attention, donc qui va être en fait une réorientation de l'attention sur autre chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Donc là, on est en train de parler, tout d'un coup un bruit dehors, ou même je vais penser à ce que je vais faire après. Ah tiens, il faut que je pense à. Il va y avoir une rupture dans notre connexion, et cette rupture, c'est une forme de distraction.
Et c'est gênant au fond, parce qu'on a toujours tendance à penser l'attention, la concentration comme un effort, et la distraction comme un soulagement. Or, des fois, les distractions, elles sont gênantes.
Mais oui, c'est ça, souvent, effectivement, la concentration, pas forcément mauvaise presse, mais souvent associée à un effort, quelque chose de désagréable. Dès qu'on peut relâcher la concentration, on souffle, ça y est, ouf. Alors que la distraction, au contraire, ce qui est distrayant, c'est amusant. Donc on a cette antinomie, cette balance entre quelque chose qui serait agréable, qui serait la distraction, et quelque chose qui serait désagréable, qui serait la concentration. Je pense qu'il faut complètement changer cette idée-là. La concentration, une attention bien maîtrisée, peut-être une source de satisfaction, vraiment de connexion à ce qu'on fait. Et la distraction, au contraire, vous savez, la distraction, ça vient du mot distraere, ça vient du latin, qui veut dire une tension, un déchirement entre ce qu'on doit faire et autre chose qui va nous tirer, qui va nous amener ailleurs. D'ailleurs, d'où le cerveau funambule encore, on est en train de tomber, on est en train de se laisser happer par des forces. Donc il y a ce déchirement, cette tension qui peut être source de fatigue et d'inconfort finalement.
Oui, finalement, on souffre tous quand même de ces distractions. On essaye au fond de résister à tout dans notre environnement intérieur et extérieur qui nous emmène ailleurs que là où on voudrait être, rester ou...
Exactement, d'autant plus qu'en plus, on n'a pas forcément une conscience claire de là où on veut aller justement. Souvent, on essaie de courir plusieurs lièvres à la fois. Enfin, il suffit d'un petit peu d'introspection pour réaliser, quand on est même dans un travail intellectuel ou même manuel, qu'on essaie de faire deux, trois choses à la fois. On court.
C'est ce qu'on fait tout le temps.
C'est ce qu'on fait tout le temps, voilà. Et ça cause une tension, parce que dans votre cerveau, en fait, va réagir à ça. Il va vous envoyer des petits signaux d'alerte, comme quoi, quand vous favorisez A, B et C sont moins favorisés, tout d'un coup vous éloignez d'autres objectifs que vous êtes fixés comme importants, et ça va créer du stress et de la tension.
Pas la bonne attention,
l'attention
T-E-N-S-I-O-N.
Exactement, voilà.
Mais justement, du coup, c'est un peu normal, parce qu'au fond notre cerveau, il fait plusieurs choses en même temps.
Alors, notre cerveau fait plusieurs choses à la fois, effectivement. Enfin, ne serait-ce que le fait de parler en marchant, c'est faire plusieurs choses à la fois, ou même respirer. C'est beaucoup plus facile quand tout ce qu'on fait, sauf une, est automatisé. Ça, on sait très bien qu'on peut juxtaposer, enfin faire ensemble des choses qui sont automatisées. C'est le fait de conduire tout en parlant. Avec l'habitude, on arrive à changer de vitesse, changer de fil, se maintenir sur l'autoroute.
Ça nécessite pas tant d'attention que ça, ou elle est automatisée,
cette attention-là. Quand c'est automatisé, effectivement, il faut moins d'attention. Donc, ce qui va être très compliqué, c'est de faire ensemble des choses qui nécessitent de l'attention. Mais ces plusieurs objectifs, ces multi-objectifs, vraiment vont se cacher dans des, parfois de façon assez sournoise. Rien que le fait de parler en public, par exemple, si on est un petit peu timide, on va avoir une attention double sur ce qu'on a à dire et en même temps sur soi-même, sur l'image qu'on donne. Ça y est, l'attention est partagée et vous êtes dans une situation inefficace.
Et on est perturbé autour de la question « Comment rester attentif ?» C'est Anaïs and the Blood Arm qui s'adresse à notre cerveau funambule. « Do I have your attention ?» sur RFI.
Cinema. Paul is always looking for love. Nobody notices till someone explodes. Jimmy says I'm kissing everyone, but I'm just wondering if all my friends are criminals, swindlers and cons. Do I have your attention?
Je t'en supplie, regarde-moi.
Did I fail to mention I want you to see me?
Anaïs and the Blood Arm. Do I have your attention? Sur RFI, autour de la question comment être attentif? Comment retrouver le sens de l'équilibre attentionnel? Notre invité, le chercheur en neurosciences Jean-Philippe Lachaud, auteur du cerveau funambule aux éditions Odile Jacob, collabore avec des enseignants et leurs élèves à des programmes d'amélioration de l'attention. On le retrouve sur le fil, ou plutôt sur la poutre, extrait d'un reportage du JT de France 2 en juin dernier.
Donc, je monte sur la poutre, moi. Ok. Donc quand je suis sur la poutre, dès que je suis en train de tomber, tout de suite je m'en rends compte et tout de suite je me remets dessus. Et bien l'attention c'est pareil. Si vous laissez distraire, hop, tout d'un coup il y a un son. Et il faut remarquer tout de suite que vous êtes en train de vous laisser distraire et c'est à ce moment-là que c'est facile de se reconcentrer.
Depuis le mois de septembre, à Lyon, 25 classes, un millier d'enfants apprennent ainsi l'équilibre attentionnel, autrement dit, à rester concentré et attentif.
Qu'est-ce qui, vous, dans la journée, a tendance à beaucoup vous déconcentrer?
Moi, en fait, c'est quand, par exemple, quelque chose tombe par terre, en fait, j'ai envie de regarder, alors après...
Un objet qui tombe par terre.
En fait, moi, quand je travaille, je pense à ce que je vais faire le week-end, parce que souvent, je pars, et du coup, ça me distrait.
L'objectif étant de prendre conscience de ces forces qui sont à l'origine des sources de distraction, et une fois que cette prise de conscience est là, eh bien de pouvoir les compenser, les maîtriser au maximum pour être le plus concentré possible sur une période de plus en plus longue finalement.
Je te laisse te reconcentrer là.
La traversée de la poutre ou du fil de l'équilibriste, c'est une image qui fonctionne, hein, Jean-Pierre Lachaud. Jean-Philippe Lachaud, excusez-moi, là, c'est mon attention qui m'a échappé.
Non, ça passe très bien auprès des élèves parce que c'est concret, c'est corporel aussi. Hein. En fait, c'est plus qu'une image parce que dans le cerveau, le déplacement de l'attention et le déplacement du corps sont extrêmement liés, c'est presque les mêmes réseaux. La meilleure illustration, c'est les déplacements du regard, je trouve. Si quelque chose attire votre attention sur le côté visuellement, vous vous êtes dans le métro, il y a une affiche, en général, le regard va suivre. Et puis, plus que le regard, la tête aussi, le buste même, vous allez vous orienter. Donc, comme ça, la capture de l'attention, souvent, se manifeste aussi par, entraîne une capture du corps. Et donc, par les mouvements du corps, lors de ces captures attentionnelles, on peut prendre conscience, comme ça, de ses forces et apprendre progressivement, un petit peu comme je le disais dans le reportage, à compenser très tôt.
À compenser très tôt quand l'attention s'échappe, quand on est distrait par autre chose.
Exactement.
Ce qui se passe tout le temps.
Voilà. C'est comme sur un fil encore, hein, le cerveau funambule. C'est trop tard de compenser les déséquilibres. Une fois que vous êtes par terre, quand vous êtes tombé, surtout si vous êtes à 200 mètres de haut, c'est gênant. Il vaut mieux compenser tôt. Et l'attention, c'est pareil parce que très vite, en fait, la distraction va entraîner une sorte d'effacement de consigne. C'est-à-dire que vous allez oublier ce sur quoi vous deviez faire vous concentrer, vous avez complètement passé à autre chose et là c'est trop tard, donc vous n'avez plus moyen de revenir, alors qu'au début il y a une petite aspiration de l'attention qui commence donc par un mouvement du corps et là à ce moment-là c'est encore le temps, c'est facile, d'où l'idée d'une attention peut-être sans effort. Être attentif c'est pas forcément quelque chose de difficile qui demande beaucoup d'effort parce que ces compensations par petites touches c'est finalement assez léger et assez tranquille.
Bien, il faut apprendre à s'en rendre compte. Aujourd'hui beaucoup d'enseignants disent que les enfants sont de moins en moins attentif, qu'il y a de plus en plus de déficit d'attention. C'est vrai? C'est quelque chose que vous voyez, Jean-Philippe Lachaud?
C'est un ressenti des enseignants. C'est difficile à quantifier parce qu'il aurait fallu utiliser exactement des mêmes tests. D'abord, avoir les bons tests pour mesurer la capacité à maintenir son attention dans le temps et utiliser ces mêmes tests il y a 10, 20, 30 ans et comparer. Ce qui n'a pas été fait. Donc, on est obligé de faire référence au ressenti des enseignants qui, effectivement, dans l'ensemble, font cette constatation.
Vous pensez que c'est lié aussi à tous nos outils électroniques, à tout ce que vous appelez des PAM. Alors, c'est pas des spams, mais enfin, ça ressemble à des spams, des propositions d'action immédiate qui se passent dans notre cerveau.
Bon, bah, c'est un jeu de mots sur les spams, c'est cette information, c'est tout ce qui nous arrive, qui est pas forcément très, très pertinent. On le ressent tous, hein, on est en concentré sur un truc, puis tout d'un coup, ah tiens, si j'allais faire ça, ah tiens, si j'allais regarder mes mails, ah tiens, si, tout le temps. Et c'est vrai qu'on sent ces distractions qui viennent de l'intérieur, se font une petite pulsion, et souvent, on n'y résiste pas, d'ailleurs, on va voir. Donc, en fait, effectivement...
Le fait de le savoir, le fait de les guetter, de savoir qu'on peut avoir des PAM, justement, permet quoi? D'y échapper ou d'y aller si on a envie d'y aller, mais pas automatiquement?
Oui, ça permet, en fait, l'idée, et d'ailleurs c'est ce qu'on essaie de mettre en place dans les classes, c'est pas d'obliger les enfants à être concentrés, mais c'est leur redonner le choix. Le choix de se laisser distraire ou non. Donc je sens cette espèce de petite pulsion, tiens, si je vais faire ça. Au fur et à mesure, j'apprends à identifier le phénomène. Tiens, je sais ce qui se passe dans mon cerveau au moment où j'ai ça. Je sais que ça va entraîner une distraction. Mais à ce moment-là, s'ouvre une petite fenêtre de liberté qui me permet de choisir d'y aller ou non, de me laisser déséquilibrer ou non. Parce qu'après tout, on peut très bien avoir envie de se laisser distraire, pourquoi pas.
Moi, en préparant cette émission, je réfléchissais justement à mon attention et je me rendais compte que j'avais besoin aussi de me distraire ou de faire des petites pauses pour revenir à mon attention. C'est normal, ça, docteur?
Oui, ça dépend. La distraction peut effectivement parfois donner un petit sentiment de respiration. Là encore, c'est une question de choix. C'est-à-dire que la question à se poser, c'est qui dirige mon attention? Est-ce que c'est moi qui la dirige? Est-ce que je place mon attention où je veux, là où j'ai besoin qu'elle soit? Ou est-ce que mon attention s'oriente en fonction de ce qu'il y a autour de moi, tout simplement sans que j'ai aucun contrôle dessus, en fonction des différentes sonneries, alertes, etc. Donc qui est aux commandes, finalement?
C'est-à-dire que vous aussi, en travaillant là-dessus, vous pouvez revenir aux commandes, on peut contrôler son attention?
Alors, on peut, oui. Alors, une métaphore que j'aime bien, en dehors de celle du funambule, c'est aussi celle de la voile. Vous apprenez à faire de la voile. Il y a des forces qui vont s'exercer sur votre voile, sur votre bateau, que ce soit les courants, le vent, etc. Si vous savez pas faire de la voile, vous êtes complètement victime de ces forces-là qui vont orienter votre bateau un peu n'importe où. Mais si vous apprenez à les comprendre, vous savez que le vent évolue d'une certaine façon, qu'il va pas changer du tout au tout, enfin, je sais pas quoi, mais, vous comprenez ces forces, de la même façon que, là, dans le cerveau, ce serait de comprendre les forces qui gouvernent l'attention. Vous apprenez à développer une forme d'introspection, d'observation de ces forces informées par une certaine connaissance du cerveau, qui est finalement assez élémentaire, hein, qui peut s'apprendre avec un livre comme celui-là. Et puis progressivement, vous remarquez comment ça fonctionne. Dans ce cas-là, si je fais ça, il se passe ça. Et progressivement, vous apprenez à utiliser ces forces plutôt que d'en être victime. Et aller, avec ses forces, les utiliser pour aller là où vous voulez aller.
À les apprivoiser, c'est vraiment le mot apprivoiser.
Exactement.
Autour de la question comment être plus attentif, on continue de chercher à apprivoiser notre attention flottante. Ce sera dans 3 minutes, juste après le flash, on se retrouve sur le fil de notre équilibre attentionnel. À tout de suite.
de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous, auditeurs attentifs et distraits qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question comment être plus attentif. Nous sommes en compagnie du chercheur en neurosciences cognitives Jean-Philippe Lachaud, auteur du Cerveau funambule aux éditions Odile Jacob. Comment comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences, exercice pratique et comique avec le distrait de Pierre Richard, extrait.
Pourrais-je savoir sur quelle conception de la publicité vous avez fondé votre initiative?
À volontiers, monsieur le directeur, parce que c'est un sujet qui me passionne. Voilà, l'homme qui ne vend pas est un malade, un pervers aux yeux de celui qui achète. Ah. C'est le contraire, c'est l'homme qui n'achète pas qui est un malade, qui est un pervers aux yeux de celui qui ment. Qui vend, pas qui ment, qui vend. C'est la même chose d'ailleurs. Enfin, c'est pas la même chose que le contraire, mais ça n'a aucun rapport. Donc j'attire, monsieur le directeur, votre attention sur un point précis. Et un point de vente, par exemple. L'homme qui est imperméable à la publicité... Ah ben, point de vente d'imperméable, tiens, justement. Eh bien, de deux choses l'une, monsieur le directeur, et de loin, permettez-moi de vous le dire, de loin, je préfère la seconde. Il faut donc concevoir la publicité comme un malade, voyez-vous. Un médecin, je veux dire. Un médecin fait un traitement à un malade, voilà. Et un traitement érioque, hein, l'électrochic. Choc, héroïque. Genre, enfin, je m'explique, plique. Le sollicité par la publicité choc... Le cortex du non-consommateur est titillé par des scouts, voyez-vous ? Des scouts, je veux dire, le cortex par des scouts. Pas par des scouts, les scouts n'ont vraiment aucun intérêt dans la consommation, alors vraiment pour très peu de choses, des bas de laine, un peu de beurre basse, mais enfin, c'est aucun importance. Alors, les scouts, prennent, si vous voulez, la forme de ligne brisée, verticale, que j'appellerais l'hésitation, le mauvais vouloir, voyez-vous, je n'achète pas, achèterai-je, je n'achète pas, achèterai-je, je n'achète pas, achèterai-je, et qui se transforme peu à peu en une courbe zénitale, qui est la soif d'acheter. Oui, 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 j'achète.
Et voilà, monsieur le directeur.
Je comprends.
Vous comprenez très bien le distrait, hein. Pierre-Richard illustre parfaitement notre cerveau funambule, Jean-Philippe Lachaud.
Voilà, c'est ça, cette incapacité à suivre un cap, à se laisser distraire. Il se distrait très bien lui-même, hein, ce qui illustre bien ce que
vous faites. Tout seul, mais il revient finalement à ce moment-là.
Il arrive quand même, hein. Il n'est pas si distrait que ça quand même, hein.
Le fonctionnement de notre cerveau, vous l'avez dit, c'est quand même d'être distrait par des myriades d'informations qui circulent, et encore plus aujourd'hui qu'hier, avec tous nos appareils électroniques.
Oui, c'est ça, avec un système donc qui est système attentionnel, dont le travail est de sélectionner ce qui est le plus important à un moment donné pour nous. Et c'est là la question difficile, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est important pour nous à un moment donné?
Donc en fait, c'est ça aussi qu'il faut se poser comme question, justement, sur quoi on veut porter son attention?
Oui, alors ça, c'est la première chose à faire, c'est de faire un peu le ménage dans ce qu'on cherche à faire à un moment donné. Voilà, quelle est mon intention du moment? Qu'est-ce que vraiment je cherche à faire? Quand l'attention commence à s'en aller et à devenir un peu capricieuse.
Nos auditeurs à Niamey, au Niger, nous demandent comment le cerveau sélectionne justement les informations qui lui paraissent les plus importantes.
Alors c'est une grande et belle question, parce que dans le cerveau, il y a plusieurs systèmes qui vont entrer en compétition et qui vont chacun avoir leur idée de ce qui est important ou non. D'abord, vous avez un système d'orientation réflexe de l'attention vers ce qui est saillant.
Ce qui se voit le plus, qui s'entend le plus, qui surgit.
Exactement, c'est pour ça que la nuit, en vélo, on porte un gilet jaune, fluo, parce qu'on va être saillant, on va être plus visible que si on l'est pas, on va attirer l'attention.
Donc le conducteur qui conduit automatiquement sa voiture, il va quand même
le voir. Enfin, sauf s'il est complètement dans sa bulle, mais au moins il va plus le voir que si on est habillé en noir. Donc ça c'est un système. Vous avez un autre système qui est lié à ce qu'on appelle le circuit de récompense, qui va attirer l'attention en fonction de ce qu'on a l'habitude d'aimer, de bien aimer. Donc ça c'est un système qui est très utilisé par la publicité. Voilà, publicité, vous avez des petits bébés, vous avez des visages féminins souriants souvent parce que c'est agréable.
Pour attirer notre attention.
Pour attirer l'attention sur un produit. Donc ça c'est le deuxième système. Le troisième système, c'est un système qui va orienter notre attention en fonction de ce qu'on a choisi, de ce qu'on cherche vraiment à faire. Typiquement, la lecture d'un livre, voilà, c'est lui qui va nous aider à rester concentré sur la lecture d'un livre. Et ces trois systèmes peuvent parfois fonctionner à l'unisson. C'est ce qui se passe quand on fait quelque chose qui nous passionne. Mais le plus souvent, être un petit peu en contradiction et s'opposer. Et c'est là où il va y avoir des ruptures d'attention, on va se laisser distraire.
Avec le développement, nous demande un autre de nos auditeurs à Dakar, avec le développement de la technologie, est-ce que ça rend pas justement notre cerveau, alors lui il dit plus désordonné, plus distrait?
Ça va créer justement des ruptures d'attention. Pourquoi ? Parce que dans ces alertes, dans ces nouvelles technologies, donc vous avez des messages qui arrivent souvent, donc de la nouveauté attire l'attention de manière réflexe. L'information.
Notre cerveau, il aime la nouveauté.
Notre cerveau adore la nouveauté. Notre circuit de récompense adore l'information également. Donc il va avoir tendance à réorienter l'attention de façon réflexe sur de l'information potentielle. Si on a sur les petits jeux aussi, les petites vidéos de petits chatons, etc. Vous imaginez bien comment ça peut stimuler le circuit de récompense. La récompense, c'est pas forcément juste boire quand on a soif ou manger du sucre. C'est aussi les récompenses sociales. Donc un message que nous envoie quelqu'un qu'on aime bien, bah, c'est considéré comme une récompense. Donc là encore, réorientation réflexe de l'attention. Donc on est comme ça en permanence soumis à des signaux qui vont aller taper dans les deux premiers systèmes, un petit peu au détriment du troisième qui lui est chargé de nous concentrer sur ce qu'on a à faire.
Donc il faut être spécialement vigilant en fait.
Exactement en fait. C'est-à-dire que pour reprendre la métaphore de la voile, c'est comme si il y a 50 ans on était sur un petit lac avec notre bateau. Maintenant on est plus dans un océan déchaîné avec des vents très forts, d'où l'utilité de savoir comment fonctionne un bateau et comment utiliser ses forces.
D'où l'utilité de lire votre livre Le cerveau funambule autour de la question.
Par exemple.
Comment être plus attentif? Je vous propose un nouvel éclairage, Jean-Philippe Lachaud, c'est celui du neuropsychologue Francis Eustache, qui lui est un éminent spécialiste de la mémoire et qui a une question pour vous.
Je sais qu'il travaille sur l'attention et un de ses thèmes, c'est que l'attention, c'est une richesse. Et est-ce qu'elle est menacée aujourd'hui? Le terme de menacée est peut-être trop fort. Est-ce qu'elle est en péril aujourd'hui? Est-ce qu'on doit changer nos modes d'éducation pour faire une place à l'attention, protéger l'attention de notamment des enfants, protéger aussi notre attention, protéger notre espace de réflexion? Bon, il y a derrière les nouveaux moyens de communication et d'information qui sont bien sûr très importants et très utiles, très précieux, mais qui en même temps, c'est vrai, changent notre univers, notre espace de réflexion. Donc, je pense qu'il faut mener justement une réflexion sur ce sujet.
Dans la réflexion que vous menez, hein, Jean-Philippe Lachaud, et dans vos travaux, plus que préserver ou protéger, vous parlez d'apprivoiser notre attention.
Oui, apprivoiser l'attention, là encore, c'est pour essayer de changer cette idée comme quoi l'attention, c'est quelque chose qu'on contrôle par la force brute. L'autre jour, j'étais avec ma fille, elle était sur un petit poney, et puis j'étais chargé, elle a 4 ans, j'étais chargé de tenir le poney, ce que je fais pas, ce que j'avais jamais fait, et puis au début, j'ai remarqué que le poney, il aime bien manger, donc le poney, il va chercher, dès qu'il voit une petite fleur sur le côté ou de l'herbe, hop, tout de suite il allait voir. Et puis au fur et à mesure de la balade, j'ai commencé à comprendre un peu comment fonctionnait ce poney, ce qui va sembler évident à n'importe qui ayant l'habitude de ces animaux, qui est que il faut ressentir de plus en plus tôt quand l'animal commence à tourner le cou. Et là, c'est facile. Vous sentez l'animal commence à être intéressé, d'ailleurs attiré, et son attention se laisse capturer par la petite touffe d'herbe, etc. Et à ce moment-là, tout de suite, un petit geste très doux, vous le ramenez. Donc, on passe d'un mode de contrôle brut, c'est-à-dire tirer sur la sangle pour essayer de ramener sur les rênes, pour ramener l'animal qui va résister d'ailleurs, ce qui n'est pas très agréable, c'est de la tension, du conflit. Vous évoluez vers un mode de contrôle beaucoup plus doux, et je crois que c'est comme ça qu'il faut fonctionner avec son attention.
C'est-à-dire que notre attention ou notre cerveau, c'est un peu comme un cheval un peu fou ou un poney qui veut aller brouter un peu partout, c'est ça en fait, cette métaphore-là, elle fonctionne bien.
Oui, d'ailleurs c'est pas une métaphore nouvelle, hein. Il y a des vieilles histoires zen qui ont bien un bon millénaire, avec l'image du petit singe ou du cheval fou, justement, pour représenter l'esprit capricieux. Donc l'esprit ici étant d'ailleurs en fait une sorte d'analogie de l'attention, qui part un peu dans tous les sens et qu'on va apprendre comme ça à connaître, à contrôler, et certainement pas par la force brute.
Pas par la force brute, et en plus on se rend compte que ça fait du bien, enfin que notre cheval fou ou notre attention un peu folle parfois, elle est presque contente, ou ça peut faire plaisir d'être apprivoisé, rediscipliné ou d'être concentré dans ce qu'on fait.
Exactement, on aboutit à ce qui prend un petit peu du temps, hein, il faut en être parfaitement conscient, on aboutit à une relation plus pacifiée avec son attention, et qui forcément va être source de plaisir, même parce qu'on va établir une vraie connexion avec ce qu'on fait, c'est extrêmement enrichissant.
Un de nos auditeurs à Yaoundé au Cameroun, Christian, un fidèle auditeur, nous demande si le fait d'avoir deux hémisphères cérébraux signifie qu'on peut faire deux activités à la fois.
Alors, c'est pas une mauvaise question du tout, mais... Ce qui complique les choses, c'est que ces deux hémisphères sont reliés assez fortement entre eux par ce qu'on appelle le corps calleux, et ce qui pose des problèmes de coordination entre les hémisphères. Et on voit bien que si on veut prendre quelque chose de très pratique, il peut être très difficile de faire deux choses à la fois différentes avec les deux mains, puisque les deux mains vont avoir tendance à se coordonner, à se synchroniser, justement parce que les hémisphères sont connectés. Donc c'est pas une garantie d'arriver à faire deux choses à la fois, le fait d'avoir deux hémisphères.
Mais en même temps, on est capable de faire plusieurs choses à la fois, de porter notre attention en même temps sur plusieurs choses à la fois. On est multitâche quand même.
Alors ça dépend. En fait, il y a deux façons d'être multitâche. Donc il y a un petit peu comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de se servir un verre d'eau tout en parlant. Se servir un verre d'eau, ça demande pas énormément d'attention. Donc, on est capable d'utiliser la majorité de son attention pour parler, pour engager la conversation. Maintenant, si vous voulez faire deux choses en même temps qui demandent de l'attention toutes les deux, par exemple, verser non pas de l'eau, mais peut-être de l'acide, et dans un verre qui est tout petit, donc ça va me demander beaucoup plus d'attention. C'est pas complètement impossible de faire les deux en même temps, mais du coup, je vais devoir passer rapidement de l'une à l'autre. Et là, on arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus difficile à faire, c'est-à-dire une sorte de dosage assez savant du temps que je vais passer sur chaque activité. Ce qui est possible, hein, parce que le cerveau en fait dispose de modèles du monde qui lui permettent de prédire un petit peu l'avenir à court terme, dans le sens où si vous me parlez, j'ai pas forcément besoin d'écouter chacun des mots pour savoir en gros quel est le sens de la question. Surtout si je connais le sujet. Donc je vais comme ça échantillonner, écouter un petit peu, et puis à partir de là, je vais reconstruire le sens de la question. Donc ça va me permettre de temps en temps de m'échapper et de faire autre chose. Dans une réunion un petit peu embêtante, ce qui est pas du tout le cas là.
On peut faire deux choses en même temps.
Les cadres débordés n'hésitent pas comme ça à quitter un petit peu parce qu'en fait ils savent un petit peu de quoi ça parle. Mais le risque numéro un, c'est de rater quand même une information essentielle. Et puis quand même, il y a une perte de connexion et il peut y avoir une vraie satisfaction à rester pleinement connecté à un seul objet d'attention.
Donc il faut faire un peu, on peut partager son attention, mais il faut faire un peu attention à trop de multitâches quand même.
Voilà, on peut partager son attention, mais il faut que ce soit fait de façon délibérée, avec vraiment une certaine virtuosité pour passer d'une chose à l'autre. Si le passage d'une chose à l'autre est décidé entièrement par l'extérieur, c'est-à-dire que je suis en train de travailler et je passe sur mes SMS au moment où je reçois un message. Là, c'est pas moi qui décide de quand je passe. Quand je quitte la première tâche, c'est mon téléphone qui décide pour moi. Ça, c'est pas bon. Par contre, si je sens qu'à un moment j'ai fini un paragraphe, voilà, je peux une petite pause de respiration, je passe sur mon téléphone. Là, c'est moi qui décide de passer d'une activité à l'autre.
Mais comment être maîtriser son attention sans trop d'efforts, mais maîtriser son attention.
Voilà, c'est une maîtrise assez légère, mais c'est moi le chef dans ce cas-là. C'est moi qui décide de quand je bascule d'une tâche à une autre.
Est-ce que les humains sont tous égaux par rapport à ça?
Alors, je sens pointer à l'horizon une autre question qui est peut-être la différence entre les hommes et les femmes.
Par exemple.
Parmi les humains, on va les séparer en deux grandes catégories. Est-ce que certains sont meilleurs
On dit que les femmes sont capables de faire plus de choses en même temps.
Oui, mais
vous
remarquerez que souvent on fait référence dans ce cas-là à des tâches ménagères, d'ailleurs, souvent, que les femmes seraient capables d'écouter la radio tout en faisant une sauce ou je sais pas quoi. Malheureusement, c'est des tâches qui sont souvent réalisées par les femmes que par les hommes, donc plus automatisées, donc avec plus de facilité de les combiner avec autre chose.
Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Au fond, on est tous capables de faire des choses automatiques, de partager notre attention entre des choses faciles et des choses plus difficiles, mais quand vraiment il faut concentrer son attention,
il faut jongler, ça devient difficile et ça devient source de tension.
Donc comment éviter les tensions autour de la question, comment être plus attentif, on avance quand même. Hein, même si en chemin, on se laisse toujours un peu distraire, la tête dans la lune, on écoute Carimouche sur RFI.
Face à mes cahiers, tout neuf flambant. Toutes les nuits, je reste éveillée. Sur la touche, couchée sur un banc. J'affiche sur ma face un air fâché. Je suis un des trois condamnés au carcan. Même mon stylo ne sait plus valser. J'accouche des idées maigres en suffocant. J'ai la tête dans la lune, elle n'est jamais revenue. J'ai la tête dans la lune, elle n'est jamais revenue.
douce réalité fout le camp. Il tâche le temps dans un mêlé maintenant et lendemain. Chercher mes clés pendant des heures et les retrouver dans ma main. J'hallucine, j'hallunie, je pose pas le pied. Je peux mourir maintenant et rêver à demain. Envie de décrocher, ne plus rien peser, toute ma gravité. Quitte à manquer d'air. Tête dans la lune, elle n'est jamais revenue. J'ai la tête dans la lune, elle n'est jamais revenue. Qu'est-ce que je suis devenue? Replié sur moi-même, plus vite des pannes de circuit. Mon cerveau me malmène à guetter très de génie. Ah, si j'étais magicienne, sûr, je dormirais plus la nuit. J'écrirais des tubes et je stopperais les tsunamis. Que je remarque, me marque au-delà des cernes. Mon visage devient difforme alors j'éteins ma lanterne. Il faudrait que je m'endorme, que je parte en holiday. Faut que je m'y fasse, j'aurai jamais le succès de génialité. J'ai la tête dans la lune, elle n'est jamais revenue. J'ai la tête dans la lune, elle n'est jamais revenue. Qu'est-ce que je suis devenue?
La tête dans la lune, on peut être attentif en écoutant de la musique et en dansant un peu, et ça marche mieux quand on est attentif à la musique.
Oui, oui, tout à fait. Là, je me faisais cette réflexion. Effectivement, la musique est très dansante. Dans la danse est un bon exemple d'attention bien maîtrisée, bien de connexion liée à l'attention. On est bien attentif à la musique. Le corps se met tout d'un coup à bouger, en rythme, etc. Et la distraction va couper ça.
Mais si on se met à penser à quelque chose,
tout d'un coup, on va se déconnecter, on va plus être en phase. Et là, je trouve que c'est bien parce que ça redonne encore cette impression d'une attention légère, agréable, qui coupe avec cette idée de la concentration un petit peu lourde, désagréable, de crispation.
Il peut y avoir une attention légère.
Eh ben complètement.
Autour de la question comment être plus attentif, donc à l'écoute de Jean-Philippe Lachaud, notre invité, chercheur en neurosciences cognitives, auteur du cerveau funambule, nous essayons de comprendre et d'apprivoiser notre attention. Certains y arrivent quand même plus ou mieux que d'autres, et c'est souvent le cas des artistes, comme le sculpteur en trois dimensions, Marc Boulet, qui travaille à la reconstitution d'animaux fossiles. Il était récemment notre invité et nous faisait partager sa propre expérience d'attention extrême. Écoutez-le et vous réagirez ensuite, Jean-Philippe Lachaud.
Ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que lorsque je travaille, c'est vrai que je suis un véritable autiste. C'est vrai que je travaille 15 heures par jour, je m'enferme dans ma bulle, et c'est vrai que pour me sortir de ma bulle, c'est le pied de biche, quoi. Sinon, je pourrais passer vraiment, enfin, je pourrais même ne pas dormir, quoi. C'est parce que ça me demande une attention totale. Une fois que je suis parti dans la sculpture, ou quand je fais une image tridimensionnelle, justement, où je peux me balader partout, je peux changer les nuages, les éclairages, je peux mettre... C'est vrai que c'est totalement immersif, et c'est vrai que j'ai un comportement très autistique. Là, pour le coup, j'ai une attention totale, quoi.
Mais vous avez l'impression que tout est mobilisé, vous êtes immergé dedans, complètement.
Totalement immergé. En plus, j'ai des écrans tout autour de moi, donc c'est parfait, quoi. Mais ceci dit, quand j'étais un vrai sculpteur, c'était pareil. Quand j'étais sur la glaise ou sur mon pain de glaise, tout le reste autour de moi n'existait plus, quoi. Donc, c'est un travail très immersif, quoi. Donc, il demande une attention totale, pour ne pas dire absolue, quoi.
Alors, une attention absolue, hein. L'exclusion, finalement, de tout le reste, c'est une forme d'attention, Jean-Philippe.
Oui, c'est très intéressant comme témoignage, parce que ça, vraiment, ça montre la puissance de cette connexion que peut produire une attention vraiment stable sur un objet. Je sais pas s'il l'a mentionné à un autre moment, mais ça doit être extrêmement enrichissant, une source de plaisir assez intense.
Ah, complètement. Lui, il parle du plaisir.
Exactement. Ouais.
Mais sa femme était pas loin, qui se plaignait un peu, qu'elle pouvait pas le décrocher de ce plaisir-là, de cette attention-là.
Alors
justement.
Voilà, c'est la remarque suivante, c'est-à-dire que, il faut faire attention, et c'est là où, pour ça qu'on peut tous bénéficier d'une meilleure attention. Là, on pourrait avoir l'impression qu'en termes d'attention, c'est bon, quoi. Il est au top. Mais non, parce que l'attention est multiforme. Vous avez des modes d'attention, vous avez des moments où l'attention la plus efficace, la plus appropriée, c'est une attention totalement focalisée sur un objet. Et d'autres moments où, au contraire, l'attention doit être beaucoup plus distribuée, beaucoup plus fluide, ouverte aux autres. Et donc, ce qui importe, c'est d'être à l'aise dans tous ces styles. Certaines personnes, voire plutôt un style, justement, d'attention très ouverte, de réactivité, ceux-là auront intérêt à travailler, entraîner cette attention beaucoup plus stable sur un objet. Et à l'inverse, donc des personnes comme cet artiste pourraient avoir intérêt à développer cette capacité d'attention pour d'autres moments beaucoup plus ouverte, beaucoup plus fluide, beaucoup
plus
dynamique.
Parce que dans la vraie vie, elle est nettement plus dynamique que ça, la vraie vie. Je me souviens avec vous, Jean-Philippe Lachaud, d'une conversation téléphonique pour préparer cette émission. Vous me parliez, on a entendu un cri de bébé derrière, tout ça. Il y a plein de perturbations dans la vraie vie.
Ben oui, c'est ça. Je me souviens avoir discuté avec des cadres d'entreprise qui me disaient, mais la, par la concentration, ils disaient, mais la concentration, c'est plus possible maintenant. C'est complètement inadapté à notre monde. Et je pense que ça repose sur une mauvaise compréhension de ce qu'est une maîtrise de l'attention. Une bonne maîtrise de l'attention, c'est pas juste cette capacité à visser l'attention pendant des heures durant. C'est au contraire, là encore, le funambule, cette capacité à être très dynamique, à réagir. Parfois, je pose mon attention quand j'ai le temps. Et puis, quand au contraire, il faut être réactif, au contraire, je vais avoir cette attention fluide. Donc, c'est à l'aise.
Fluide.
Être à l'aise dans tous les modes. Une attention fluide, mais qui n'est pas dirigée par l'extérieur, qui est dirigée en fonction de mes objectifs, de ce que moi je cherche à faire. Donc c'est moi qui reste maître de cette espèce de fluidité, ce déplacement de l'attention.
Alors comment vous donnez, c'est pas des recettes, c'est pas des trucs dans votre livre, Le cerveau funambule. Enfin, il y a quelques petits moyens mnémotechniques, il y a le mot rappel, par exemple. On a parlé des PAM hein, tout à l'heure, genre spam, pour se rendre compte qu'on est en train de partir, hein, que notre attention s'en va. Il y a la technique du rappel. Vous donnez quand même quelques moyens pour ramener notre attention, apprivoiser notre attention et la ramener.
Voilà, alors c'est d'ailleurs tout l'objectif du livre, hein, qui par rapport au précédent, qui est un petit peu théorique, celui-là, il se veut vraiment pratique, c'est bon concrètement, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on améliore son attention. Et là, le travail sur l'attention, et je dirais que c'est ça, c'est ce qui fait la richesse, c'est qu'il s'adapte à... Il s'adapte aux objectifs de chacun, c'est-à-dire on peut aller très très loin dans l'attention justement pour avoir cette espèce d'attention de connexion permanente, à la fois très distribuée mais en même temps très focalisée quand on veut. Mais ça c'est vraiment un travail d'années et d'années.
D'apprentissage.
Exactement. Donc j'essaie de donner des pistes pour aller pas jusqu'au bout mais au moins assez loin. En même temps je donne des pistes pour des gens qui seraient intéressés par quelque chose de beaucoup plus pratique. Concrètement demain qu'est-ce que je fais? Et là on peut donner des conseils plus simples, il y a même des trucs à la fin. Tout dépend de ce qu'on attend, ça peut
être... Les conseils plus simples, ça peut être quoi? De faire des micro-tâches.
Oui, alors ça, c'est le plus simple. C'est plutôt que de chasser plusieurs lièvres à la fois. Donc, qu'est-ce que je cherche à faire maintenant? Je me fixe un petit objectif clair, concret, à court terme, pour les 5 minutes à venir. Ça peut être, je sais pas quoi, pour un enfant, son cartable fait, hop, fermé, tout placé dans l'entrée pour le lendemain. Ça peut même être encore plus simple que ça. Un truc qui va occuper 2-3 minutes, mais au moins, il est complètement focalisé là-dessus. Et il le fait. Avec les enfants, d'ailleurs, je prends l'exemple de la scène. On va tourner une scène d'un film. Voilà, imagine, on va tourner une scène. Tu vas prendre tes livres, tu vas les mettre dans le sac, tu vas fermer ton sac, tu vas mettre là. Oui, d'accord, je vois. Allez, clap. On peut même utiliser un clap. Hein. Allez, clap de départ. C'est bon, on tourne la scène. L'enfant, il fait ça. Il comprend qu'il a un seul truc à faire. Très bien visualisé, il va le faire. Et quand c'est terminé, c'est terminé. Donc ça, c'est vraiment du pratique, c'est facile à mettre en place.
C'est des micro-tâches qui permettent d'être concentré sur ce qu'on fait et d'être content une fois que c'est fait aussi, pour passer à autre chose.
On accumule les petits succès. C'est un petit peu l'idée de se mettre le circuit de récompense dans la poche, puisque qui sera plus en opposition avec l'attention en disant non, faut pas que tu te concentres parce que c'est pas rigolo. Non, on accumule des petits succès, on fait un petit truc, on a réussi, ça libère l'esprit, on coche une case, on repasse à autre chose, une petite respiration entre deux, et puis voilà, bah ça donne un petit rythme comme ça de succès accumulés qui peuvent être pas seulement pour les enfants mais aussi pour les grands.
Hein. Alors on peut aussi aller plus loin avec ce livre, Le cerveau funambule. Vous-même, Jean-Philippe Lachaud, qui travaillait sur l'attention. Ça change votre vie d'être plus conscient de votre attention et de vos distractions aussi, j'imagine.
Oui, en fait, l'attention est un thème un petit peu particulier, dans le sens où on n'est jamais en vacances. C'est-à-dire que c'est impossible pour moi de faire une dissociation entre mon travail au laboratoire et ma vie. Je suis tout le temps dans l'attention, dans une espèce de compréhension de cette attention, de ces forces-là.
Mais pas crispé, vous êtes dans une fluidité de ça.
J'essaie, mais c'est ce que j'essaie de dire, c'est que c'est vraiment un travail sur le long terme. Ça fait des années que je m'y intéresse. Alors après, évidemment, on arrive à des formes un peu plus subtiles de contrôle, de maîtrise de l'attention.
Ça marche, on y arrive.
Je peux témoigner du fait que ça marche. Ouais. Vous allez être. Donc je parlais des micro tâches, etc. Mais il y a un autre axe, disons, de développement qui utilise, avec un petit mot qui s'appelle rappel, regard, attention. Posture, pensée, extension, lâcher prise, etc. Mais c'est des petits mots qui donnent des points d'observation de son attention. De tiens, mon attention est en train de partir. Et au départ, c'est très grossier, c'est-à-dire que je remarque que je me suis complètement orienté. Tiens, je me suis mis à discuter. Donc on remarque très tard qu'on s'est laissé distraire. Mais au fur et à mesure, vraiment, on remarque de plus en plus tôt, jusqu'à développer une certaine conscience au moment où une pensée est en train d'émerger, une pensée qui peut être distrayante. Il y a une sorte de spatialisation dans le sens, pas utiliser des mots compliqués, mais comme si une partie du corps se mettait plus en action. Ça monte dans la tête. Ou voilà. On commence à sentir des choses comme ça. Exactement. Et c'est extrêmement tôt. Et à ce moment-là, il est vraiment très facile de recentrer l'attention. Donc, tout ça pour dire que ce travail sur l'attention peut aller vraiment de la base, de segmenter ce qu'on a à faire en choses simples, jusqu'à des choses qui sont quand même beaucoup plus subtiles. Et il y a quelque chose qui est vraiment très agréable avec ce travail sur l'attention, c'est que il se superpose parfaitement à la vie quotidienne. C'est pas quelque chose en plus. Chaque activité de la vie quotidienne est un prétexte à une occasion, en fait, d'améliorer son attention.
Ça fait du bien en plus. Merci infiniment, Jean-Philippe Lachaud, d'être venu en direct partager et cultiver avec nous, apprivoiser un peu ce sens de l'équilibre attentionnel. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le cerveau funambule, à lire absolument pour comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences. C'est publié aux éditions Odile Jacob. Vous revenez quand vous voulez, Jean-Philippe Lachaud. Nous serons peut-être un peu plus attentifs, on sait jamais.
Autour de la question sur internet www.rfi.fr.
Demain, pourquoi connaître son ADN, à quoi ça sert et dans quel but? Nous tenterons de poser toutes les questions, même celles qui fâchent, aux généticiens qui seront nos invités, avec Guillaume Ploquin à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, portez-vous bien, amis auditeurs, restez fluides, curieux et attentifs. Dans quelques instants, c'est l'heure des informations sur RFI.